Les blablas de l'ESS,
c'est sérieux?
Sans se prendre au sérieux.
Bienvenue au Blabla de l'ESS, cet événement proposé par le pôle de l'économie sociale et solidaire du Pays de Plouermel en partenariat avec l'Estaminet du Champ commun, Timbre FM, la radio associative de Gand. Les Blabla de l'ESS s'est enrichi en termes de partenariat des deux cafés associatifs du territoire que sont le café de la Forge à Guillac et le café de la Source qui nous accueille ce soir et on les remercie très chaleureusement. Les blablas de l'ESS, qu'est-ce que c'est? C'est une discussion-débat sur la base d'une expérience de référence en présence de témoins et d'un public pour susciter un échange sur cette thématique. Et la thématique ce soir, c'est porter une parole féministe en milieu rural. Le format, vous le connaissez, c'est une petite vidéo en début de soirée, suivie d'une discussion avec les témoins et un échange avec le public. Pour infuser cette discussion, c'est l'association Les Égalites qui vient témoigner de son action sur le territoire. Et à l'animation, c'est Henri Georges, qui est un homme, mais dont l'écriture inclusive est irréprochable. Voilà, je lui passe la parole.
Oui, et puis c'est parce que j'ai l'habitude de faire l'animation, donc cette fois-ci, on ne s'est pas vraiment posé la question, quoi, en fait. Puis, c'est des sujets qui intéressent les hommes également. Donc, on commence toujours par une courte vidéo, et on avait réfléchi à cette vidéo avec Marie et Patricia, et on s'était dit que ça risquait d'être compliqué de trouver la vidéo adéquate. Et je vous confirme que c'était compliqué. Et donc, on n'a pas trouvé de vidéo intéressante disponible sur le net qui traite le sujet d'un point de vue actuel. Donc, ce n'est pas en désespoir de cause parce que ça nous semble un document intéressant. On a choisi un documentaire qui date de 1976 et qui rend compte de la situation des femmes en Limousin. Et donc, ça nous permettra de lancer le débat autour de l'actualisation de cette question, puisque c'est la question de la parole féministe en milieu rural, en Bretagne, et que bien, ça nous permettra de faire le point. Voilà, on en a pour un petit quart d'heure.
J'ai choisi ce métier parce que je l'aimais beaucoup. Je m'occupe de la traite le soir. Du soin des animaux le matin. Et puis en ce moment, de la culture des tulipes. Une vie active à l'extérieur, en plein air, en contact avec la nature. Puis je l'ai choisi pour pas mal d'avantages, la vie de famille entre autres.
Elles n'ont pas toutes ce beau moral. La vie de la femme en milieu agricole n'est pas une sinécure. Isolement, éducation des enfants, habitat, travaux souvent pénibles, équilibre budgétaire, autant de problèmes dont la femme a largement sa part. De surcroît, le relief semi-montagneux du Limousin impose des conditions de vie et de travail souvent défavorables. Pour Michel Chezalviel, être agricultrice aujourd'hui suppose un choix moral.
La femme qui a choisi d'être agricultrice, elle sait très bien que vivre avec les animaux, très près des animaux, bien quelquefois ça sera voir du fumier, ça sera bien sûr voir des vélages et au niveau de la porcherie voir des accouchements aussi, mais là n'est pas le problème, on a accepté cette vie, on l'a choisie et on est très, très intéressé par cette vie-là parce que c'est très prenant de vivre avec les animaux et de vivre près d'eux, de les élever, c'est très prenant.
Josépha Bija, vous êtes l'exemple d'une agricultrice qui s'est reconvertie. Vous étiez dans la librairie avant.
Et oui, c'est exact. Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez là?
Employée de commerce, j'étais à la vente. Je faisais les commandes quand il y en avait. Bien sûr, tout ce qui est en rapport avec la librairie. Je lisais beaucoup d'abord, toutes les fois que je pouvais. Puis il y a la clientèle, il y a le rangement, toutes sortes, enfin, tout ce qui touche la vente.
Vous meniez une vie de vraie citadine.
Oh oui, oui, oui. Ce qui a été le plus dur, c'est de vraiment se lancer dans un élevage, vraiment spécialisé. Alors l'oison, par exemple. Bien, les premières années, la première année, ça n'a pas été toujours très bien. Et puis, oui, ça fait 4 ans que nous le faisons. Et ma foi, je vois que maintenant...
Vous vous levez plus tôt que vous ne vous leviez,
oui,
pour aller à la librairie.
Oh, oui, oui, oui.
Quelle heure?
6h30, 7h.
Ça n'a pas été un peu dur au début?
Si, si, mais enfin...
Parce que c'est 7 jours sur 7.
7 jours sur 7, il n'y a pas de jour de congé. Si nous sortons une journée, un dimanche, il faut rentrer pour soigner les bêtes, ça... C'est peut-être un inconvénient, mais enfin, on s'y fait.
Toutes les femmes que nous avons rencontrées partagent le même souci. Elles estiment que leurs enfants sont défavorisés dans le domaine de la scolarisation. Pour l'avenir du monde rural et son évolution, le problème scolaire est essentiel.
Nous voudrions que dans toutes les régions, et en particulier dans des régions très pauvres comme la nôtre, dans les régions de montagne où il y a encore moins de monde, on ouvre des écoles maternelles afin de donner aux enfants d'agriculteurs les mêmes chances qu'aux autres.
Vous pensez que jusqu'à présent, les agriculteurs n'ont pas eu les mêmes chances que les enfants, les citadins?
Je dis non, parce que... ils allaient à l'école à 5 ans. Oh, je ne dis pas que ça a peut-être pas tellement gêné, mais il leur manque quelque chose. Et je pense qu'il faut leur donner les mêmes chances. Ils n'ont pas les mêmes chances parce qu'ils n'ont pas les écoles à côté de chez eux. Parce qu'ils sont loin, parce qu'il faudra qu'ils fassent du trajet, soit en car, soit ils seront pensionnaires. Ça, c'est un déséquilibre. Ils n'ont pas les mêmes chances.
Le départ en car très tôt le matin,
très
évidemment.
Très tôt, oui, à partir de 7 heures, des fois avant, pour rentrer à 6h30, 18h30, 19h le soir. Ça fait très tard. Et ensuite, il faut faire des devoirs. Ils ont du travail. Ils n'ont pas les mêmes chances.
Où les enfants vont-ils aller à l'école?
À Buja.
Quelle distance?
28 km le matin et 28 le soir.
Ça va être très fatigant.
Très fatigant, pour les enfants surtout.
Pour la petite qui aura donc un peu moins de 4 ans quand elle commencera.
Elle aura 4 ans, puisqu'elle va avoir 4 ans au mois de juillet. Elle va rentrer au mois de septembre.
Alors ça ne vous fait pas un peu peur qu'un petit bout de chou de 4 ans s'en aille aussi loin et supporte ses fatigues?
Si, mais je ne la mettrai pas tout le temps de toute façon. Elle ne pourra pas tenir.
Est-ce que vous sentez chez les enfants comme ça le besoin de voir un peu de société, de sortir du...
Oh oui, ça leur manque surtout parce qu'elles sont les seules dans la commune de sa mère. Seules jeunes, quoi, de cet âge-là.
Tout de suite à 5 ans, ils partent. Hein. Ils partent pour la journée, c'est assez dur d'ailleurs. Il faut qu'ils soient en très bonne santé, ça demande du soin. Puis alors, très bien équilibré, autrement nerveusement, un enfant qui est affectueux en souffre de ne pas rentrer. Ce midi-là, c'est très important pour eux. La seule chose qu'ils demandent le matin en partant, ils sont contents d'aller à l'école. Parce que, bon, ben, il y a davantage de camarades que dans un hameau, il y a davantage de distractions. Puis ils aiment connaître, de toute façon, on vit dans le calme, alors on a besoin de... Automatiquement, l'enfant qui part de chez nous, il aime apprendre, vous savez tous. On n'a pas de difficulté pour les envoyer à l'école, ils ne refusent jamais. Mais alors, ce midi, la cantine, hein, le manger à la cantine pour un tout petit, ça c'est...
Oui, ils ont l'impression d'être coupés de la famille.
Ce midi. C'est pour ça que c'est bien vrai que le repas en famille, c'est très important, je crois.
Mais la femme de l'agriculteur moderne donne l'impression qu'elle a décidé de faire évoluer la société traditionnelle dans laquelle elle vit. C'est bien parti maintenant.
Oui, je pense qu'effectivement, si nos mères, ou la génération, je veux dire, même avant moi, n'avaient pas choisi leur métier. Et c'est vrai, elles ne l'ont pas choisi. Il ne leur a pas été imposé, mais elles l'ont vécu, et c'est tout. Alors que maintenant, les jeunes qui se marient avec un agriculteur, je pense qu'elles savent ce qu'elles font et elles choisissent leur métier. Et je pense que dans les années qui viennent, de par cela, nous aurons des femmes qui seront peut-être plus engagées, qui comprendront mieux le métier d'agriculteur et d'agricultrice et qui le vivront mieux.
Nous sommes là pour parler un petit peu du financement de nos exploitations, car je pense que vous serez d'accord avec moi que les femmes sont un peu le ministre des Finances sur l'exploitation, enfin la plupart, quoi, parce que si les hommes parlent beaucoup investissement et achat matériel et tout ça, la femme de son côté, quelquefois, est un petit peu réticente. Elle se demande, oui, c'est bien beau tout ça, mais on va encore faire des emprunts.
Le métier d'agricultrice est un métier difficile. Aux tâches ménagères s'ajoutent les travaux de la ferme et surtout la comptabilité d'une petite entreprise. Alors que l'agriculteur pense investissement professionnel, l'agricultrice doit aussi réserver une part du revenu à l'aménagement du foyer. Dans tous les cas, c'est la femme qui tient le rôle de comptable de l'exploitation.
J'aurais bien besoin de changer ma machine à laver. on voudrait bien faire installer le chauffage, tout ça, et ça fait un petit peu une concurrence sur l'exploitation.
Colette Entraigue, il faut effacer l'image de l'agricultrice qui sort le matin en sabot pour donner à manger à ses poules. Ce n'est plus ça, vous avez une tâche de comptable et de gestionnaire maintenant.
Oui, les exploitations agricoles modernes doivent tenir une certaine comptabilité, en commençant d'abord par le contrôle des saillies, les déclarations de naissance, les déclarations sanitaires, les factures de vente du lait, des petits veaux de 10 jours, de vaches de réforme, la TVA, les déclarations trimestrielles, la déclaration annuelle.
Elle supporte l'isolement comme si la solitude était un état naturel. Elle s'en accommode pour elle, même lorsqu'elle la déplore pour les enfants. Ce qu'elle craigne plus que l'isolement, c'est le fossé qui les sépare de l'autre société, celle des citadins.
Isolée, mal comprise, c'est certain, je crois. Je crois que c'est vrai. Pourquoi ? Pourtant, mon Dieu, il y a pas mal d'échanges, les communications sont bien établies, il y a beaucoup de vacances. Mais je sais pas, je pense que notre profession est mal comprise. Peut-être parce qu'elle est mal défendue, peut-être qu'elle a une mauvaise économie. Je ne sais pas à quoi ça tient.
Quand, à quel moment vous sentez-vous le plus isolé, le plus seul ?
Un peu l'hiver, quoi qu'on n'a pas tellement d'hiver. Mais en définitive, si quand même, peut-être. Peut-être. Mais enfin, en hiver, alors, au niveau professionnel, on a du travail, si vous voulez. On a des réunions et puis on entreprend un thème de travail dans l'année avec des animatrices. Alors, c'est quand même pas l'hiver chez nous parce que, alors, en ce moment-là, on sort, on a des voyages, on a des après-midi de visite et puis on a ces réunions assez régulièrement. Quand même.
Des loisirs de temps en temps, cinéma, autre chose ?
Ah non, ça non, je crois, enfin, pour nous, non.
Moi, ça ne me gêne pas, de toute façon. Je suis habituée. Alors.
Comment est-ce que vous vous occupez ?
Avec le travail de la maison, les enfants.
Et puis le soir ?
Télévision.
Vous lisez, vous écoutez de la musique ?
Oui, bien sûr.
Vous ne vous ennuyez jamais ?
Non.
Il n'y a pas des moments où vous vous ennuyez un peu dans cette solitude ?
Oh non, pas du tout, parce que je trouve toujours à m'occuper, soit avec les bêtes, soit à la maison, par des travaux ménagers.
Il n'y a pas longtemps que vous êtes rentrée du collège agricole où vous étiez. Est-ce que les amis avec lesquels vous étiez ont choisi, elles aussi, de rester à la ferme ?
Non, pas du tout. Sur la classe que j'étais, je crois que je suis la seule à être restée sur une exploitation.
Et à la maison, vous lisez, vous écoutez de la musique ?
Ah oui, oui. Je lis, puis les après-midi, je fais de la couture, du tricot, enfin...
Vous ne vous ennuyez jamais ?
Ah, jamais, non.
Michel Chézalviel, après cet itinéraire à travers le Limousin, on est un peu surpris. Parce que, dans l'ensemble, les femmes ne semblent pas avoir de problèmes graves, à part peut-être tout de même les enfants, et puis certains problèmes économiques.
Oui, bien sûr, c'est toujours difficile pour une agricultrice, pour une femme, de dire devant un objectif de télévision qu'on a des problèmes graves, mais il y a quand même des problèmes. Il y a le problème de l'isolement. Toutes celles qui vivent cet isolement ne vous ont peut-être pas dit vraiment comment il était vécu. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, cet isolement, ce métier, elles l'ont choisi. Donc cet isolement est peut-être mieux vécu, mais il existe.
Alors est-ce que pour apporter une conclusion à cette enquête, il ne vous semble pas que l'idéal, ce serait simplement que le revenu de l'agriculteur augmente, atteigne le même niveau que celui des autres catégories sociales, ce qui permettrait à la femme d'arranger son intérieur et d'avoir une vie beaucoup plus normale.
Je pense effectivement que le problème numéro un, c'est le revenu. Car le jour où les agriculteurs auront un revenu qui sera semblable à celui des autres catégories sociales, ils pourront à la fois, non pas vaincre tous leurs problèmes, mais une partie. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, on peut avoir une maison beaucoup mieux arrangée, on peut acheter une voiture, on peut passer le permis de conduire, parce que ça aussi c'est le problème de beaucoup de femmes. On peut peut-être aussi faire que l'éloignement des enfants pour aller à l'école soit mieux accepté.
Un reportage de Gilles Arizzoli, Jean Duchâteau, Jean-Pierre Texier, François Davy, montage de Daniel Mouchot.
C'est un film d'homme, hein, vous voyez. Alors, je vais demander à nos témoins de se présenter, l'association d'égalité, et puis chacune et chacun d'entre vous, parce que je vois que ce n'est pas simplement un problème de femmes, quoi.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Patricia Mauvoisin, je suis la présidente de l'association.
Marie Autrette, je suis aux égalités et depuis le début avec Patricia.
Bonsoir, donc Marie, membre des Égalites.
Bonsoir, Emmanuel, membre des Égalites également.
En fait, on est un groupe d'une douzaine de personnes. On a commencé en 2012, quelques jours avant un 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, en se disant que bah, l'égalité, on n'y est pas. Donc on était toutes les deux convaincues de ça et on s'est dit, bah, si on lançait une première action à Monteneuf, on était assez... Enfin, moi, en tout cas, j'étais assez persuadée que ça allait être facile, j'allais voir... J'avais identifié un certain nombre de femmes sur la commune et je m'étais dit, je suis sûre qu'on va être nombreuses. Et donc, c'était un peu un parcours du combattant. J'étais assez déçue. Tout le monde me disait, oui, mais t'as pas tort, mais moi, je suis pas féministe. Mais, enfin, bon. Et on s'est pas découragé. On a quand même lancé notre première soirée qui était assez... on a expliqué, en fait, pourquoi une journée des droits des femmes. On a un peu repéré les inégalités dans le monde, en France, enfin, un truc un peu soft. Et puis, finalement, ça a bien plu. Il y a des gens qui sont venus... On s'était dit que même si les gens venaient pour nous faire plaisir, si notre idée, c'était aussi par rapport aux femmes victimes de violences, de se dire que si on pouvait... leur permettre d'aller voir les associations qui sont faites pour ça. Donc, si déjà on sauvait une femme sur 10 qui sont victimes de violences conjugales lors de ces soirées, c'était déjà un objectif. Donc, en effet, il y a des personnes qui sont venues juste pour nous faire plaisir, mais finalement, qui ont été intéressées par le sujet. Et donc, on a recommencé chaque année en variant les supports. On a fait venir de vrais intervenants. On a fait, par exemple, une soirée sur les... Alors, on a décoré les fenêtres du bar avec nos différentes affiches. Donc, jusque-là, on se limitait à une soirée le 8 mars. On a fait une soirée sur les stéréotypes. On a fait une soirée en partenariat avec l'Auberge des Voyageurs. On avait récupéré plusieurs jeux sur l'égalité. Et ça avait bien fonctionné aussi. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser un public qui n'était pas forcément averti et déjà de faire un peu réfléchir à ces questions-là. Et puis, en 2015, on a remonté une association, Monteneuf Action, plus générale, qui s'occupe entre autres de la fête de la musique. Et là, on s'est dit, on va créer une section, les égalites, puisqu'on n'avait pas de support, donc on ramait, on n'avait pas de sous. Et bon, enfin, c'était compliqué. Et là, tout d'un coup, il y a plein de gens de Monteneuf Action qui nous ont dit « Mais nous, ça nous intéresse, on va rentrer dans les égalités. » Donc voilà, maintenant, on est une douzaine, des filles et des garçons.
Et on a pu lancer la soirée du 25 novembre. Donc maintenant, on a deux soirées par an, une autour du 8 mars et une autour du 25 novembre.
Du même type, les soirées ?
Alors la soirée du 8 mars, c'est plus généraliste. On a parlé de l'éducation, on a parlé de les métiers atypiques. La soirée du 25 novembre, c'est plus en rapport avec la journée des violences faites contre les violences faites aux femmes. Et donc là, c'est des sujets un petit peu plus difficiles, on va dire. Mais voilà, ces deux soirées-là sont constantes.
Et depuis qu'on fait la deuxième soirée, on a aussi réussi à avoir des financements de l'État et du Conseil départemental. Ce qui nous a permis, comme c'est un sujet plus difficile, d'avoir un support comme le théâtre, par exemple.
Merci pour cette présentation. On va avoir la possibilité d'y revenir au fur et à mesure. Moi, j'ai une première question qui vous est adressée après ce film-là. Je pense qu'il y a des sujets qui sont encore d'actualité, mais il y a des choses qui sont dépassées peut-être. Il y a aussi le fait que c'est très orienté femmes d'agriculteurs, comme ça, en fait. Bon, est-ce que vous avez l'impression que il y a des choses qui sont complètement hors sujet ou il y a des choses qui demeurent ?
Sur la scolarisation des enfants, quand même, on a évolué, heureusement. Mmh. Après, sur l'isolement, il y a aussi la question des modes de garde qui est plus compliquée ici. Justement, l'éloignement des services publics et des associations aussi, notamment pour les violences. Et la mobilité.
La question de la mobilité, du coup, dans son ensemble.
Oui.
Mais qui est un problème un peu pour tout le monde en milieu rural, mais il y a encore des femmes qui n'ont pas le permis de conduire. Oui. Donc ça devient plus compliqué en milieu rural.
Marie ?
Oui, moi je voulais ajouter que je ne suis pas sûre que les agricultrices aujourd'hui soient reconnues comme les agriculteurs. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit facile d'être une femme encore aujourd'hui dans ce monde-là.
Mais justement, est-ce que cette idée... Enfin, parce que quand on lit la présentation du documentaire, on parle de la situation de la femme en Limousin en 1976. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, on parle que de la femme d'agriculteur, quoi, en fait. Bon. Et il semblerait qu'il n'y ait pas tellement d'autres femmes, pas d'autres statuts là-bas. Enfin, je connais le coin, donc c'est pas si éloigné de la vérité à ce moment-là, mais ça n'empêche. Est-ce que vous avez ce sentiment aussi, cet étonnement ?
Il y a encore beaucoup de femmes justement qui n'ont pas qui n'ont que le statut de femme d'agriculteur,
femme
et
qui, oui.
Voilà. Mmh. Et du coup, pas de droit et pas de droit à la retraite et je reviens toujours sur les violences, désolée, mais... et du coup, c'est d'autant plus compliqué pour elles quand elles veulent partir, parce que financièrement, c'est... Voilà. Alors, je voulais juste rajouter un truc par rapport à nos soirées. Ce qui nous a aussi motivés à continuer, même si au début, c'était un peu compliqué, c'est qu'à la fin de chaque soirée, il y a un pot offert. On y tient, pas parce qu'on est en Bretagne, ce qui serait un stéréotype, mais parce que c'est le moment où justement on peut un peu décompresser quand le sujet est difficile et où les gens peuvent nous poser des questions plus facilement. Et à chaque pot, il y a 2-3 personnes qui viennent nous voir et on se rend compte qu'elles sont dans des situations terribles. Et du coup, vraiment, on se dit que rien que pour ça, il faut continuer, quoi.
Et est-ce que vous pensez, parce que là, c'était exprimé dans le film aussi, et puis c'est la thématique de notre soirée, est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité des questions autour du statut de la femme, en fait, de sa situation en campagne, par rapport à la situation en ville ? Quels sont les questionnements similaires et qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce qu'il y en a une ?
Je pense qu'il n'y en a pas énormément en dehors de ce qu'on a cité, plus de précarité, la mobilité, tout ça. Après, quand il y a un programme justement pour les journées officielles comme le 8 mars, et en général, entre Rennes et Vannes, on est les seuls à proposer quelque chose. Et du coup, peut-être que ce travail de sensibilisation, il est moins accessible ici qu'en ville, quoi.
Oui, et comment, est-ce que vous en avez déjà parlé avec d'autres personnes, le fait que vous soyez vous aussi très isolé en campagne, est-ce que c'est comparable dans d'autres régions ou...
Je pense que c'est lié aux zones rurales.
Oui. Enfin... Et l'image de la femme qui est présentée dans le film, comme ça, en fait, parce que ça nous a fait tous rire à la fin, comme ça, en fait, avoir un peu plus de revenus pour pouvoir améliorer l'intérieur, etc.
Mais,
oui, c'est ça.
Justement, après, on est aussi
le congélateur aussi, peut-être.
Dans tout ce qui est, rôles sociaux déterminés, c'est que comme les femmes en zone rurale, elles ont plus de précarité, elles sont aussi plus à la maison. Du coup, c'est elles aussi qui s'occupent davantage des tâches ménagères et. Voilà, et donc...
Oui, les choses n'ont pas tellement changé, là. Si ?
Non, c'est là que, justement, on a tous et toutes souri ou rigolé vis-à-vis de ces remarques, mais on s'est tous dit « Ah, c'est en 76 !»
Oui.
Mais malgré tout, on peut constater qu'aujourd'hui, en 2019, ça n'a pas forcément énormément changé.
Ouais.
Il y a la répartition des tâches ménagères, le fait de s'occuper des enfants, c'est... quand même quelque chose qui perdure, le rôle est assez associé, donc d'où la nécessité de soirées comme ça, l'existence de soirées de débats comme ça ce soir, les soirées qu'on organise, parce que on se rend bien compte que même en 2019, il reste énormément de boulot à faire sur le féminisme pour que ce soit plus pris comme un gros mot, comme c'est souvent le cas.
Justement, est-ce que c'est pris comme un gros mot ? Est-ce qu'il y a de la résistance ?
Alors nous, on a trouvé une définition sympa. C'est deux questions. Est-ce que vous pensez que tous les êtres humains doivent être égaux en droit ? En général, on répond oui. Est-ce que vous pensez que les...
C'est rassurant d'un seul coup.
Est-ce que vous pensez que les femmes sont des êtres humains ? Si vous avez répondu oui aux deux questions, vous êtes féministe. Donc déjà, ça... Non, mais parce qu'il y a tout le... Enfin, c'est un mot qui a été volontairement en partie, mais très diabolisé, et du coup, qui fait tout de suite peur. Quoi. Après, c'est un sujet, de façon générale, qui bouscule un petit peu, parce que comme depuis tout petit, on a été conditionné voilà, avec des rôles bien particuliers, chaque soirée, même nous, on change à chaque fois. Enfin, on se remet en question, on s'engueule des fois en rentrant.
Ah bon? Comment? Sur quoi?
On se dit, tiens, il y a encore des choses qui... Y a encore des... Non, mais c'est, on a tous eu ce retour-là de se dire que chaque soirée, ça nous faisait aussi...
Mais je pense tout de même que par rapport à 1976, oui, comme tu disais, on a quand même évolué, même en campagne. Oui. C'est vrai qu'après, dans des situations peut-être un peu plus de précarité ou autre, ça devient un peu plus flagrant, enfin, ça devient un peu plus prégnant, mais... Mmh. Il y a quand même une bonne évolution, même si encore, c'est vrai, beaucoup de chemin qui reste à faire. Comme tu dis, avec les tâches ménagères et tout ça, c'est pas gagné pour tout le monde. Mmh, mmh.
Donc, à l'interne, là, quels seraient les débats que vous avez par rapport justement au portage de cette parole-là?
Alors là, je vais juste... ça a un lien, mais je voulais juste dire que dans l'association, on ne se pose pas forcément en tant qu'experte et expert. En fait, on est juste... Ce qui nous lie, c'est qu'on se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Mmh. Et l'objectif de nos soirées, c'est que les gens repartent au moins en se posant des questions, quoi. Pas forcément en ayant des certitudes, mais voilà. Donc nous, on apprend aussi sur le tas, et en effet, on peut avoir des... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, peut-être quelqu'un a un exemple.
Est-ce que c'est des discussions sur les approches?
Tu parlais, Patricia, de entre nous ou en rentrant chez nous, dans nos foyers? C'est pas pareil.
Ça remue autant les femmes que les hommes. Alors justement, notre dernière soirée sur les violences, il y avait le correspondant Ouest France qui était là. On a des fois eu du mal à faire venir. On ne savait pas trop si c'était la question qui lui, ou nos têtes qui ne lui revenaient pas. Enfin,
mais c'est un correspondant peut-être aussi.
Oui, et donc il est venu à la dernière soirée sur les violences. Il est ressorti bouleversé. 2 heures après, il avait fait un papier sur Facebook d'une page en disant que les hommes aussi devaient se poser des questions. Enfin, à chaque fois que je l'ai recroisé après, il m'en reparle. Enfin, et du coup, c'est bien que ce soit venu.
Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle justement autour de cette... de cette expérience?
J'aurais envie de savoir combien il y a de femmes agricultrices en fait dans la salle, un peu aussi pour rebondir en disant, est-ce que vous avez réussi à toucher des femmes agricultrices comme celles qu'on a pu voir dans le documentaire, puisque vous évoquez en fait des personnes qui viennent à ces soirées-là, mais c'est vrai que c'est même un peu la question qu'on se posait, ou du moins la réaction qu'on a eue tout à l'heure avec Daniel sur le type de personnes qui viennent dans ce type de soirée. Donc, ma question, ça serait effectivement, est-ce que vous avez réussi à faire venir ces femmes-là?
Alors, moi, c'est
leur mari, bien sûr.
C'est la remarque que je me faisais en voyant le documentaire, c'est qu'en fait, on n'en touche pas énormément. Moi, j'avais contacté le réseau Agricultrices de Bretagne, et elles avaient l'air assez contentes de ce qu'on faisait, mais j'en ai pas identifié. Après, tout le monde ne se présente pas non plus, on ne connaît pas forcément tout le monde. Mais en effet, je pense que qu'on a encore du travail de ce côté-là.
Et justement, est-ce que... Il y a des problématiques en particulier encore pour ces personnes-là?
Je pense que c'est déjà le fait de travailler avec son... Enfin, je reviens toujours sur les violences, mais c'est aussi là souvent que les problèmes... Enfin, c'est forcément plus compliqué de quitter son conjoint quand on a la même activité, parce qu'il y a tous les problèmes matériels derrière. Et en plus, du coup, c'est aussi sans doute plus compliqué d'aller à un rendez-vous plus discrètement. Enfin... moi, par exemple, il y a des choses qui m'ont choquée. Des fois, on a été invité dans des réunions à la préfecture ou pour présenter notre association, et on nous disait, oui, il n'y a pas tellement de foyers ici pour les femmes victimes de violences, donc on leur propose des nuits d'hôtel quand c'est une urgence. Sauf que moi, je me disais, ici, tout le monde se connaît, je ne vois pas qui va aller à Pluermel à l'hôtel au risque de croiser son voisin le lendemain matin en sortant. Enfin, il y a un certain nombre de problématiques, en fait. Non, mais je pense que le côté, l'absence d'anonymat ici, ça complique les choses pour ces femmes-là.
Oui.
Après, pour l'égalité en général, je voudrais pas caractériser une profession, stigmatiser une profession plus que d'autres.
Mais la question peut-être justement de la différence entre la ville et la campagne, la question de l'anonymat, et pour vivre sa vie, et peut-être aussi il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est clair que c'est une situation particulière au monde rural. Oui.
Moi, j'ai par exemple rencontré il n'y a pas très longtemps une femme, et donc qui m'a raconté qu'elle était victime de violences conjugales avec son précédent conjoint qui est toujours dans le coin, et je lui ai parlé de nos soirées, que ça pourrait pourrait être intéressant. J'ai parlé du CIDF, l'association des droits des femmes, où il y a une psychologue, une juriste. Mais elle, elle me dit, mais non, mais jamais je viendrai à tes soirées, parce que si mon ex, qui est toujours dans le coin, le sait, je me fais... Donc je pense que... Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus compliqué.
Oui. Une autre question.
On parlait des agricultrices, il y a aussi beaucoup de diverses entreprises sur le territoire. Est-ce que l'association elle a essayé, ou est-ce qu'elle arrive, ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui agissent dans les entreprises? Est-ce que d'aller à un mix buffet, rencontrer les femmes pour les sensibiliser à cette question-là, est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui le font, ou pas?
Nous, on a des tas de projets comme ça, on a des tas de rêves. Sauf que on est bénévole et du coup on est obligé d'être face à la réalité qu'on doit aussi avoir un travail rémunéré pour voilà. Mais on nous a pour l'instant on nous a pas sollicité pour ça et on n'a pas fait à ma connaissance. Il doit y avoir peut-être de temps en temps des actions ponctuelles, mais dans le secteur je crois pas. Après on nous a sollicité par exemple pour organiser des groupes de parole de femmes victimes de violences, mais sauf que nous on n'a pas la formation et puis on n'a pas le temps non plus. Il y aurait des tas de choses à faire.
À ma connaissance, il y a un groupe d'entrepreneurs femmes à Pleuhermel, Femmes de Bretagne, c'est ça ? Il s'appelle Femmes de Bretagne. Je crois que Patricia, tu les avais... Voilà, j'en sais pas beaucoup sur elles, mais récemment, je me suis dit qu'on pourrait les contacter.
C'est un réseau de femmes chefs d'entreprise qui se sont rendues compte que les hommes étaient beaucoup plus doués que les femmes... dans l'entrepreneuriat, aussi parce qu'ils étaient bien meilleurs pour établir des réseaux. Et donc, c'est ça l'idée de ce réseau-là. Donc, c'est que des femmes chefs d'entreprise, mais en effet, ça serait bien. On pourrait envisager de faire des choses avec.
Alors, je vais répondre sur deux choses, du coup. Par rapport à Mix Buffet, en fait, il y a une infirmière sur place quand ils arrivent à la garder, mais c'est pas très stable. C'est un poste qui est un petit peu exposé. Donc du coup, auprès de l'infirmière, les femmes viennent volontiers la trouver, cette infirmière, quand elle existe. Et donc exposer des tas de problèmes. Moi, je n'ai pas été infirmière là, je suis infirmière du travail, mais je travaille en collaboration avec l'infirmière de... Les infirmières, j'en ai connu 4 en 4 ans. Les infirmières de Mix Buffet, donc elles sont dépositaires de la parole des femmes et elles peuvent les orienter justement CIDF ou autre structure. Il pourrait être intéressant de faire le lien avec l'infirmière de chez Mix, quand il y en a. Actuellement, je ne sais pas s'il y en a. Et puis, il y a une assistante sociale qui vient, assistante sociale d'entreprise, alors je ne sais pas à quelle fréquence, qui elle aussi peut faire ce lien avec les femmes pour ce type de problématique, puis d'autres aussi. Donc voilà, ça peut être des problématiques sociales, autres, des problèmes de budget. Voilà. Et puis, entreprendre au féminin en Bretagne, nous, on est adhérente de cette association. C'est vrai que c'est
entreprendre, c'est beaucoup dans les villes, donc à Vannes et à Rennes. Et Femmes de Bretagne, c'est d'être dans les deux. En fait, Femmes de Bretagne, c'est aussi beaucoup plus dans le rural.
Et donc, il y a eu une antenne à Pleuhermel récemment. Et ce qu'on sait, effectivement, c'est que les... Alors, je n'ai pas les chiffres, je ne suis pas très, très loin de chiffres, mais je retiens les idées derrière les chiffres. C'est que les femmes sont plus facilement, elles sont plus précaires dans leur création d'entreprise. C'est-à-dire qu'elles vont plus aller vers l'auto-entreprise plutôt que l'entreprise individuelle. Elles vont plus facilement auto-financer, ce qu'il ne faut jamais faire, mais voilà, nous on l'a fait aussi, auto-financer plutôt que de faire un emprunt parce qu'elles vont être moins crédibles auprès des banquiers. Voilà, c'est comme ça. Elles sont moins aussi assertives dans ce qu'elles proposent. On leur fait moins confiance, donc du coup. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Et les emprunts, les auteurs d'emprunts sont toujours, quand elles en font, c'est plutôt 1 500 euros, 2 000 euros, et les bonhommes, ils vont plus à 4 000, 5 000, quoi. À demande égale avec... C'est un chiffre intéressant.
Ce qu'on peut dire, c'est que le microcrédit, en général, est plus à destination féminine et de toute façon dans le monde entier, en fait. Et donc, ça se constate. Mais tu voulais rajouter quelque chose ?
Moi, c'est sans transition. Mais du coup, je suis Leïla Cabaret et je suis en création d'entreprise agricole. On a beaucoup parlé de femmes d'agriculteurs, mais pas beaucoup, du coup, d'agricultrices qui se montent sans le mari, quoi.
Oui.
Et on parle de... Je trouve là, le sujet est autour du féminisme dans le couple, mais il y a aussi l'importance du féminisme dans la société. Mmh. Et moi, en tant que créatrice d'entreprise agricole aujourd'hui, je sens aussi qu'on n'est pas beaucoup aidé et qu'il y a un regard, bon, il va falloir que tu fasses tes preuves et que... Mmh. Enfin, voilà.
Je vais faire une petite publicité, mais va commencer la semaine prochaine une formation à Hogan qui s'appelle le CREOPS, création et reprise d'entreprises de l'économie solidaire et du développement durable, à vos souhaits, et qui existe depuis 8 ans maintenant, qui a commencé en Côte d'Armor. Et ce qu'on constate, c'est que sur les 12 personnes qui sont concernées dans chaque promo, normalement, il y a à chaque fois une majorité de femmes. En fait, bon. Et c'est quelque chose qui est véritablement de plus en plus constaté, et justement avec une forme d'entrepreneuriat responsable, quoi, en fait. Et je pense que c'est assez intéressant à voir comme ça, en fait. Voilà.
Voilà, je suis agricultrice, femme d'agriculteur aussi. J'ai sorti de la maison, mon mari s'occupe des enfants. Donc ça nous arrive de sortir, et moi ça m'arrive beaucoup, même si le soir j'avoue que j'ai du mal à bouger de la maison parce que j'arrête pas. Alors voilà, pour vous dire, j'ai fait référence à, je sais pas comment ton prénom, Leila. Mais je vous dirais simplement que ma belle-mère s'est installée comme agricultrice en 1950. C'était quand même une pionnière, hein, parce qu'elle n'était pas mariée. Et elle a beaucoup fait pour que les femmes d'agriculteurs ne soient pas femmes d'agriculteurs, sinon qu'elles puissent avoir un statut d'agricultrice. Et ça me choque un peu. J'ai côtoyé quand même, pas maintenant, mais j'ai côtoyé quand même beaucoup de femmes d'agriculteurs, ou même dans la chambre d'agriculture ou ailleurs. Et ils avaient toutes une statut. Voilà. C'était... Par contre, j'ai repéré récemment. Des situations où encore les femmes qui se séparent des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, ils se retrouvent sans rien, simplement parce que pas mariés, pas des statuts, rien à la rue. Donc c'est encore pire, en quelque part c'est encore pire. Et après, comme on a dit, j'ai rien contre les féministes, hein, je suis une femme et je suis bien contente de l'être. Je pense d'ailleurs que j'ai du mal à croire qu'il faut mettre les femmes en valeur parce qu'on n'a pas les mêmes machins que les hommes. Particulièrement, moi, je travaille avec 3 hommes, ça ne me pose aucun problème. Aucun problème. Donc je suis très heureuse et je suis très contente. Et après, ça me choque un peu, mettre les femmes à part. Pourquoi les femmes... Il serait vraiment possibilité que les hommes, ça me choque un peu. Moi, je pense que c'est le problème, c'est si on a plus de confiance en soi ou on n'a pas. C'est à chacun. Je vois des hommes qui se débrouillent très, très mal pour faire une entreprise. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas une question d'homme ou femme, tout simplement. Voilà, merci. Et par contre, pour tout ce qui est violence des femmes et tout ça, n'attendez pas à avoir des grands diplômes pour faire des grandes choses. C'est que c'est, dans la souffrance, le plus important, c'est avoir écouté, partagé. Voilà, donc les groupes des paroles, je n'ai participé à beaucoup et ça fait... Ça fait beaucoup de bien, hein, ça fait beaucoup de bien. Je ne connais pas le monde de la violence féminine. J'avoue que des fois, j'ai un peu agressé mon mari, hein, mais il y a beaucoup de vaisselle cassée chez nous et ça se passe très bien. Mais voilà, c'est, n'attendez pas à avoir des grands diplômes pour faire des choses. Voilà. Mmh. Allez-y.
Je crois qu'ils n'attendent pas non plus.
Pour répondre à ce qui vient d'être dit, effectivement, il faut prendre confiance en soi. Moi, j'ai été dans un parcours à l'installation, j'ai fait des demandes de prêt. On était 2 femmes et la personne à qui on demandait le prêt, c'était une femme. Elle nous a regardé dans les yeux en disant « Non, mais vous êtes sûre ?» Je peux assurer que si ça avait été 2 hommes, elle n'aurait pas posé la question. Et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses qui s'ajoutent, si on ne prend pas du recul, si on n'en a pas conscience, ça finit par effriter, en fait. Donc certes, il faut y aller, mais à un moment donné, il faut prendre conscience de tout ce qui peut se dire. Moi, maintenant, je suis salariée en fait, d'une structure agricole, enfin associative et agricole, mais ça n'empêche que quand je vais acheter du matériel, on ne me parle pas à moi de la même façon que quand on parle à mon collègue qui est un mec. Et ça, c'est une réalité.
je voudrais ajouter en fait que nous, on ne cherche pas à mettre les femmes en valeur particulièrement. On n'a rien contre les hommes non plus. On cherche juste à voir les inégalités. Il y a des différences entre les femmes et les hommes, ok. Sauf que nous, notre questionnement, c'est est-ce que ces différences, c'est des inégalités et du coup des discriminations ou pas. Et tout à l'heure, on parlait des chefs d'entreprise, l'accès au crédit. Mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui va bientôt être... d'actualité, c'est les élections. Donc il y a 16% de femmes maires, par exemple. Enfin, quand on regarde chaque pan de la société, chaque voilà, on se rend compte que ben on n'est pas aux 50-50. Que, voilà. Et c'est là notre combat, en fait. C'est pas pour que nous on soit à 60, mais c'est juste 50.
Oui, et puis la question de la confiance, c'est pas simplement une question personnelle. C'est aussi une question sociale, c'est une question éducative. Ça se construit, ce genre de choses. Et c'est clair que, bon, bien, les petits garçons et les petites filles n'ont pas forcément les mêmes contextes qui leur permettront d'accéder à la confiance. Et à une confiance, notamment, pour pouvoir parler et tenir tête à certaines limites de la société dont tu parlais, comme ça. En
fait. Alors, merci Henri-Georges pour cette transition avec notre soirée du 15 mars. En fait, ça fait longtemps qu'on voulait aborder ce thème-là, mais le vendredi 15 mars, donc à Monteneuf, on fait une soirée sur filles-garçons, la même éducation, ou comment la société entretient les inégalités. Donc, alors, on va parler un tout petit peu du scolaire, mais notre thème, c'est surtout... à la maison et puis à l'extérieur, comment les enfants sont conditionnés dès tout petits pour avoir un rôle de garçon et les filles. Et comment on les empêche en fait de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire.
Je voulais ajouter quelque chose après ce que tu as dit. C'est que moi je constate juste, je suis pas agricultrice, moi j'aide Leïla autour des chevaux. On a deux petits troupeaux. Quand le gars il vient avec son tracteur pour déposer le foin et puis qu'il faut enlever les fils à deux. Il est un peu comme ça, quoi. Lui, il s'occupe de vaches, moi de chevaux. Et du coup, il est un petit peu comme ça. Alors, quand il a le temps, il a plus de patience. Des fois, il n'en a pas. Donc, je ne vais pas assez vite. Enfin, voilà. Il y a cette espèce d'impatience, comme ça, de mec à côté d'une bonne femme, quoi. C'est clair, c'est ça. Mais j'en prends pas au bras. Moi, je continue mon truc. C'est pas très grave. Mais c'est juste pour dire, ben voilà, ça vient se loger dans des petites conneries comme ça, quoi. Voilà.
Sur la question de mettre en lumière les femmes, moi je trouve que, enfin, c'est des copines qui... Non, c'est la question de mettre en lumière les privilèges dont bénéficient les hommes. Parce que sur la question de l'inégalité, si on regarde que les femmes, et du coup, avec l'idée qu'il faut que les femmes elles prennent du pouvoir, c'est une chose. Mais en fait, si on ne pose jamais la question du fait que les hommes doivent en perdre et y renoncer, en fait, c'est la question du renoncement aux privilèges, mais du coup, de les voir. Et c'est aussi travailler sur ça, le faire apparaître. Et tant qu'il n'y a pas cette question du renoncement aux privilèges, les structures inégalitaires vont se maintenir. Ça, je crois que c'est Colette Guillemin qui l'amenait, comme évidence, et ce qui fait que le maintien de la société patriarcale encore jusqu'à aujourd'hui, et puis ça va durer encore longtemps, tant que ces questions-là sont pas abordées, et s'il y a une résistance colossale des hommes, notamment, enfin pas que des hommes, des hommes et des femmes, pour que ça bouge pas sur les rôles, c'est pour maintenir ces privilèges. Donc ça, c'est voilà. Enfin, moi, je trouvais que c'était super intéressant comme idée. Du coup, c'est pour ça que je la partage.
Et t'as raison.
C'est le constat qu'on fait souvent aussi à la fin de nos soirées. C'est que les inégalités ne sont pas non plus que la faute des hommes. Enfin, les hommes doivent se remettre en question, mais les femmes aussi, parce qu'elles sont aussi dans des stéréotypes qu'elles entretiennent elles-mêmes aussi. Quoi.
On l'entretient tous, quoi, en fait.
L'idée, c'est de voir, justement, de voir ces inégalités, de pouvoir en avoir conscience pour après s'interroger, se dire est-ce que...
Un peu dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on constate, justement, un peu une transformation du statut de la femme ou de la place que prennent les femmes dans le milieu rural, puisque bon, la question c'est quand même le féminisme en milieu rural, relativement à ce qui est quand même un phénomène général de disparition de la proportion du nombre d'agriculteurs en milieu rural. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas agriculteurs en milieu rural. La preuve en est, je pense que dans votre association, je ne sais pas s'il y a des agricultrices. Dans tous les cas, il n'y en a pas ce soir pour représenter, mais je serais vraiment intéressé de voir justement s'il y a
une évolution qui est liée à la fin de, à la fin, ou du moins à la diminution de ce statut d'agriculteur à l'intérieur même du monde rural, qui aurait un effet levier sur justement l'amélioration des conditions d'existence des femmes qui habitent à la campagne, quoi.
Alors, n'étant ni agriculteur ni agricultrice, je ne saurais te répondre. Marie, peut-être que tu pourras nous en dire plus. Après, ce qui m'interroge là, c'est que justement, on parle du milieu rural, mais j'aurais tendance à vouloir ramener le débat sur le sujet de la soirée, qui est de porter la parole féministe dans le milieu rural. Parce que dans le milieu rural, il n'y a pas que l'agriculture. Mm-hmm. Alors, comme tu le relevais justement, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'agricultrices ici. Et du coup, la difficulté est plus justement de devoir évoluer la société par l'éducation, via le regard qu'on a sur les enfants et de les voir évoluer. Parce qu'aujourd'hui, même si on est en 2019, je ne veux pas forcément avoir un regard trop négatif, trop noir sur notre société, mais force m'est de constater tout de même que malgré les rires, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'on était en 76, je travaille avec des enfants, entre autres, et je constate toujours de grandes disparités dans le positionnement même que les enfants peuvent avoir, filles ou garçons, dans leurs comportements sociaux entre eux, vis-à-vis des adultes, et d'où la soirée justement qu'on va organiser, parce qu'il y a énormément de travail là-dessus à faire. Et quand on parle de féminisme et de porter la parole féministe dans le milieu rural, là entre autres, parce que je pense qu'on se cantonne pas spécialement au milieu rural, mais on y est. Souvent, quand on aborde un problème, quel qu'il soit, on essaye d'aller à la base, à la racine. Et on constate que si à l'âge adulte, il y a des disparités, on essaye de creuser et de revenir un peu à la source. Donc pour le milieu de l'agriculture, je le connais peu, je pourrais peu répondre, mais pour d'autres milieux, je constate qu'il y a encore des choses très très ancrées. Et je finis juste là-dessus, le fait que ce sont des hommes et des femmes qui éduquent les enfants, le fait qu'on perdure avec les mêmes stéréotypes, la chaîne n'est pas encore prête d'être cassée, quoi.
Du coup, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais de la thématique, donc porter la parole féministe en milieu rural, quand vous organisez des soirées autour du 8 mars, donc sur des thématiques généralistes, est-ce que vous avez l'impression que dans le public, c'est des gens qui sont déjà sensibles à cette question-là, ou est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibles à la question du féministe et qui... un petit peu l'exemple du journaliste, est-ce qu'il y a d'autres exemples, mais du coup d'habitants en milieu rural qui viennent et pour qui c'est une complète découverte, cette notion de féminisme?
Moi, je crois qu'il y a une partie du public qui est déjà acquis à la cause. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de la moitié qui ne l'est pas forcément. Et justement, comme on disait tout à l'heure, au début, ils sont venus pour nous faire plaisir parce que voilà, ils nous connaissent, machin. Mais ça, c'est super parce que ça permet d'avoir un public qui ne serait jamais venu, justement, peut-être en ville, qui ne serait jamais venu à une soirée comme ça. Et les gens, ça fait les gens s'interroger. Nous, on a plein d'exemples de collègues, d'amis, de voisins qui sont venus et qui nous précisent. On est venus pour te faire plaisir. Bon, tu n'étais pas obligé de le dire. Mais en fait, à la fin de la soirée, ils notent leurs coordonnées et ils reviennent les années suivantes. Enfin, je pense vraiment que ça fait... C'est ça qui nous intéresse aussi dans ce travail-là. Mm-hmm. C'est qu'on...
Marie, ouais. Tu partages cette idée.
Oui, c'est un public mélangé, comme tu dis au départ. C'était un peu... Puis c'était nouveau aussi au public. Toutes les soirées, il y a eu des gens variés. Il y a aussi le fait, comme tu disais, qu'il y a que nous, pratiquement, entre Vannes et Rennes, il n'y a que nous qui faisons quelque chose autour de ces thématiques-là, donc des soirées grand public. Et puis, du coup, des gens qui reviennent, qui en amènent d'autres. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est mélangé, c'est vrai que c'est intéressant pour ça.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a justement un a priori, en fait, peut-être une réserve par rapport, quand on parle féminisme, que ça peut être bloquant, en fait, Marie ?
Oui, je pense que oui, le mot féminisme, oui, est parfois mal accueilli. Alors, en effet, quand on fait la pub pour nos soirées, on ne met pas soirée féministe à Monteneuf. Voilà. Hein, c'est souvent, on insiste sur le fait que c'est une soirée théâtre, une soirée. Voilà. Et là, oui, on constate qu'il y a quand même une bonne diversité de personnes qui viennent. Quoi. Donc, et je pense que le fait que ce soit à Monteneuf, à la salle municipale, voilà, il y a une soirée, c'est pas loin, c'est gratuit. Voilà, on connaît des gens qui l'organisent ou qui nous ont dit qu'ils y allaient. Mmh. Donc les gens viennent, quoi. Et voilà. Et après, les discussions sur le féminisme, effectivement, on peut les avoir un petit peu en off, quoi, au quotidien, de gens qui disent « Ah, bah non, moi, quand même, je suis quand même pas féministe, quoi. » Donc, voilà. Mais même si c'est bien, vos soirées, tout ça, mais voilà.
Ce qui était intéressant aussi, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que quand on s'est structuré avec l'association Monteneuf Action, on organise aussi la fête de la musique. Et donc, il y a des gens qui ont dit « Super, je viens aux égalites », mais il y a aussi des gens... On voyait bien qu'il ne fallait pas trop les chatouiller sur le sujet. Mais ils venaient quand même. Des fois, ils nous disaient « On va venir, parce que de toute façon, sinon, vous n'aurez personne. » T'as raison, viens. Et en attendant, on se disait « C'est génial, au moins, ils vont entendre 2-3 messages. Et puis, ça va faire aussi évoluer les choses. » Donc ça, c'est chouette.
Mais je crois que c'est mélangé à Monteneuf comme ailleurs. C'est mélangé dans la société. Et je crois que ce serait un peu partout pareil.
Ça m'est arrivé d'aller à des soirées organisées à Vannes pour le CIDF dans le cadre de ces... Voilà. Donc déjà, ils ne font pas plus de monde que nous. Donc c'est rassurant, parce que des fois, on se dit... on a eu entre 30 et 100 personnes. Ça dépend des années. Mais en plus, j'avais vraiment l'impression que c'était que des gens très militants, quoi. C'est bien aussi, hein, mais nous, on trouve que c'est bien si on arrive à faire réfléchir d'autres gens.
Tout à fait.
Alors, dans le cadre des livres jeunesse, j'ai le livre « La révolte des cocottes » qui parle donc de l'égalité garçon-fille. Et en fait, en deux mots, dans la basse-cour, les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le nid et à couver pendant que le coq et les poules se pavanent, et les poulets, pardon, se pavanent la crête en l'air. Menées par Charlotte, elles manifestent et font la grève pour que ça change. Donc ce livre a le label Amnesty International et il est écrit par Adèle Tariel et Céline Riffard qui fait les dessins. J'ai le plaisir de dire qu'Adèle est ma grande fille.
Et j'avais l'impression qu'il y avait de la publicité. Oui,
c'était juste pour compléter parce que du coup il y a les soirées effectivement, mais il y a aussi le forum des assos qui est une bonne porte d'entrée pour rencontrer des gens, pour répondre à la question de tout à l'heure, je vois plus le visage. Le forum des assos aussi, c'est un bon moment. Il y a notamment cette année, les années précédentes aussi, il y avait avec un questionnaire notamment que tout le monde peut remplir, qui fait réagir parce qu'il y a des chiffres surprenants. Et donc ça aussi, là pour le coup, ça touche tout le monde. Et moi, je trouvais ce moment-là super chouette. Et là pour le coup, ça touche tous les gens qui se baladent au forum des assos.
Patricia, tu voulais...
Oui, je voulais rebondir sur le livre parce que ça me fait penser. En fait, je sais pas, ceux qui nous suivent, parce qu'on a une page Facebook, c'est l'occasion de le dire aussi. Vous pourrez noter vos coordonnées d'ailleurs pour quand on vous envoie les mails. La dernière soirée, malheureusement, on a dû l'annuler parce que deux jours avant, une des comédiennes était malade. Et c'était très embêtant parce qu'on avait déjà touché les subventions. Donc, on a négocié avec nos financeurs, enfin, un des financeurs, de transformer cet argent, de l'utiliser pour acheter un fonds de livres. Parce qu'à chaque soirée aussi, on proposait des livres, mais sauf que c'était souvent nos livres perso et puis tout le temps les mêmes. Donc là, du coup, c'est un scoop, hein, parce que personne ne le sait encore. Bientôt, à la médiathèque de Monteneuf, il y aura un fonds égalite, donc avec une centaine de livres sur l'égalité, qui vont des BD aux romans, pour tous les âges, pour tous les goûts, toutes les sortes.
Oui, je me posais la question de comment on appréhendait cette réalité-là justement dans les dynamiques associatives du territoire en fait. Comment ça se formalisait ? On parle de violence
violence conjugale à l'intérieur du couple. Ça a été évoqué un petit peu et de manière assez positive d'ailleurs par une collègue agricultrice qui bosse en communion avec ces trois hommes agriculteurs, ces trois collègues. Et je me disais, est-ce qu'il y a justement un travail qui est envisagé sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos dynamiques collectives, associatives? Je pense à nos bars associatifs, je pense bien sûr aux égalites. Comment ça se passe entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui restent toujours prégnantes, ou est-ce que vous êtes en mesure d'identifier un peu ces travers qui reviendraient toujours au galop et qui aimeraient à des temps de parole qui seraient toujours mobilisés par les hommes? Des décisions qui seraient toujours celles proposées sur la base des décisions des hommes. Voilà, je parle de ça parce que c'est des choses qui me semblent être des vrais enjeux dans nos collectifs aussi respectifs, n'étant pas agriculteurs pour autant. Et je me disais que c'était une thématique intéressante aussi pour éventuellement une prochaine discussion.
Eh bien, c'est vrai que le problème, quand on commence à s'intéresser à ces sujets, en fait, on a tendance à voir tout par ce prisme-là. Et en effet, tu as raison. Dans toutes les réunions, c'est surtout les hommes qui prennent la parole. Hein ? Mais aux égalites, déjà, ils sont moins nombreux. Non, aux égalites, on n'a pas ce... Par contre, oui, on repère aussi, ne serait-ce que dans l'association générale.
Oui, je rejoins Patricia, c'est-à-dire que on commence à repérer, dans nos associations, en effet, quand les hommes ont plus le pouvoir. Après, le fait que... Yann me fait signe que je ne lui ai pas laissé la parole, je pense. Je pense que nous, du coup, comme on commence à être un petit peu connus en tant qu'égalites, mais aussi en tant qu'autre chose, quoi, c'est-à-dire on participe aussi à d'autres associations sur la commune, ça nous permet un petit peu de, à ce moment-là, faire la petite blague, oh, attention là, voilà, et du coup, c'est respecté. Et je pense que c'est un petit pas. Mais en fait, moi, je vois ça comme assez positif. On ne va pas forcément faire un commentaire outré. Mais en effet, je pense qu'on peut faire avancer cette réflexion-là en tant qu'égalite, parce qu'on est aussi autre chose qu'égalite sur la commune.
Après, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir... Il y a un garçon qui avait rejoint notre groupe à un moment donné et qui n'était pas du tout convaincu par le sujet. Et donc, c'était un peu compliqué. Enfin, on avait souvent des divergences et on avait du mal à... Et ça nous a permis... Enfin, il n'est pas resté. Mais ça nous a permis, en fait, de faire une charte des égalites avec un certain nombre de principes de base à respecter. On n'était pas obligé d'être des militants, mais un certain nombre de règles à respecter. Et on a fait ça aussi à un moment donné où on avait... on s'était fait faire des badges égalites pour que justement on soit repéré au moment des pots, que les gens sachent à qui s'adresser en dehors de moi qui parlait. Et donc on s'est dit, ouais, mais le badge, on va pas le mettre non plus à quelqu'un qui va pas du tout défendre la cause. Donc à cette occasion-là, on avait dû faire une charte justement pour se prévenir de ce genre de dérapage.
D'un point de vue plus général, est-ce que c'est une idée reçue que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de femmes qui s'engagent dans les associations et qui portent justement une dynamique associative. Est-ce que c'est une idée reçue, ou est-ce que c'est des choses que vous voyez, vous aussi?
Localement, il y en a pas mal, moi, je trouve. Après, je...
Donc un engagement citoyen peut-être plus évident.
Oui, c'est possible. Après, la question qu'on peut se poser, c'est justement, les femmes sont peut-être plus investies dans les associations, mais ont peur de l'entrepreneuriat, par exemple. C'est-à-dire que voilà, on se sent plus légitime dans un milieu associatif pour défendre des valeurs. Enfin, moi, c'est la question que ça me que je me pose.
Après, il y a tout ce qui est association, il y a aussi tout ce qui est donc dans le monde du travail, et il y a aussi ce qui est dans les collectivités. Et la municipalité de Monteneuf a rejoint le groupe des communes qui ont signé une charte pour
une communication publique sans stéréotype de sexe.
Voilà, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, sur la commune de Monteneuf, la lettre de la commune, les écrits à destination des habitants, on a adopté l'écriture inclusive. Et on avait essayé, on n'a pas vraiment tenu compte des réunions, de voir, suivant les sujets, la proportion d'hommes et de femmes qui étaient présents. Et tout ça, bon, on n'a pas, c'est pas vraiment à jour, notre comptage. Mais il y a aussi l'exemple des collectivités qui peuvent adopter l'écriture inclusive, adopter une certaine façon de faire pour que l'égalité avance.
Est-ce que justement ça provoque des réactions, ce type de choix ?
Ce qui est sur pour l'écriture, en fait, l'aide de la commune de Monteneuf, elle est en écriture inclusive.
Oui.
Je crois que les gens s'y sont habitués ou il n'y a pas eu énormément de retours.
Non, Manu, tu avais l'air de dire qu'il y avait eu des réactions.
Alors effectivement, je suis d'accord avec Marie quand tu dis que une fois que c'est établi, il y a peu de réactions finalement. Les gens lisent, mais quand on justement juste avant de signer cette convention, il y a eu ça on a parlé un peu autour et il y avait quelques retours assez négatifs. Justement sur le fait de... c'est un peu l'argument qui revient souvent quand on essaye d'avancer dans une lutte sociale, quelle qu'elle soit, qui est d'avancer le fait que c'est peut-être pas le plus important.
Mm-hmm.
Et alors de l'autre côté, évidemment, on défendait le fait que on part de l'éducation, on part aussi du langage. Si tout se conjugue au masculin, fatalement, il en découle beaucoup d'inégalités, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et donc voilà, c'est plus le fait d'en parler, ça suscite du débat, on voit du désaccord, et au bout d'un moment, c'est toujours la difficulté. Est-ce qu'on reste toujours dans le débat et le questionnement ou est-ce que on met des choses en place et puis on y va un petit peu au forcing, même si là je trouve que c'est assez doux hein, quand même.
Mmh.
Ça va quoi. Mmh. Et finalement ça s'est mis en place et ça choque pas grand monde.
Ok, le symbole est accepté. Voilà, Benoît. Bah oui, Benoît.
Alors je suis pas trop à jour, donc peut-être que vous avez l'air des réponses. La parité homme-femme, et des fois c'est l'État qui en parle pour dire qu'il y a des lois, après il me semble, ou peut-être qu'ils vont arriver là-dessus. Et donc j'ai pensé par rapport à l'associatif, c'est que je pense qu'il y a sans doute plutôt les grandes entreprises que les petites auront bientôt peut-être des rapports d'égalité à faire de est-ce que ça va ou pas dans l'entreprise. Et c'est clair qu'après peut-être des associations ou des initiatives pourraient dire. Aider les associations à dire ou les collectifs pour dire où vous en êtes, en fait, faites-vous un mini audit ou un mini rapport pour regarder une fois par an quel est votre niveau d'égalité homme-femme ou comment vous en êtes à ce niveau-là, quoi.
Il y a des choses qui sont en cours sur ces questions-là, quoi, en fait.
En fait, ça existe déjà, mais pour les entreprises, c'est connu, les entreprises qui ne respectent pas l'égalité, sauf que l'État a du mal à les sanctionner, parce que c'est des entreprises et donc il y a de l'emploi derrière, il y a plein de choses derrière.
Mmh.
Et du coup, ça existe depuis longtemps, mais en effet, il faudrait peut-être qu'il y en ait d'autres qui les incitent à mettre en place des sanctions, ou au moins de les nommer, enfin qu'on les... Mmh.
Par rapport aux associations, c'est peut-être d'aider les associations qui regardent, qui se disent, ou d'être enquêtées pour dire, au final, nous, on en est, est-ce qu'au final, dans notre conseil d'administration, dans nos prises de décision, est-ce qu'il y a l'égalité ou pas, et de porter un regard de temps en temps là-dessus.
Il y a plein de choses super intéressantes aussi, c'est au niveau des collectivités, par exemple, de voir au niveau du budget, l'argent, par exemple, pour les subventions aux associations, ce qui va... Dans la plupart du cas, ça va aux associations qui sont exclusivement le foot, par exemple. Enfin, non, mais ici, si on prend localement, c'est une des associations qui coûte le plus cher à la collectivité. Et ce serait bien que chaque collectivité ait ce regard-là, justement, de se dire, là, on leur donne tant, il y a combien d'hommes et combien de femmes dans l'association, et ça permettra de se rendre compte et de...
Au moins de constater. Ouais,
voilà.
Pas au gant, par contre.
Non.
Oui, mais enfin...
C'est des petits, mais ça commence à évoluer nettement. Ouais. En fait, il y a des équipes féminines plus...
Alors c'est intéressant parce que justement à Hogan, un des combats aujourd'hui, un des combats prioritaires de l'association qui porte le football sur Hogan, c'est de réussir à avoir des vestiaires pour les filles. Et de refaire faire les vestiaires pour qu'ils puissent avoir des vestiaires pour les filles et de, qui viennent jouer au foot.
Oui.
Donc bon, de là à dire que c'est un grand pas en avant, dans tous les cas, je trouve que symboliquement, c'est plutôt intéressant de voir que aussi de ce côté-là, il y a des choses qui se passent, quoi.
Mais c'est très bien s'il y a plus de femmes qui font du foot. Mais ouais. c'est pas la majorité ici, en tout cas, enfin dans
bien
le secteur.
Sûr, bien sûr.
J'ai cité le foot, j'aurais pu citer la chasse. On doit être à peu près dans les mêmes rapports.
Je voulais juste témoigner d'une structure de l'ESS, parce que en fait, vous savez qu'il y a des logiques de contrôle qui sont liées, entre autres, à des structures. Donc, dans l'ESS, il y a dans les finances. Il y a des finances solidaires, finances qui respectent le commerce équitable, qui respectent le rapport homme-femme, etc. Donc, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le contrôle de ces structures-là, et entre autres, Finansol. Et le Crédit Coopératif, qui est une structure de l'ESS, je donne juste ce chiffre-là parce que c'est intéressant aussi de voir où situent certains enjeux. C'est que ils affichent différents indicateurs et dans leur dernier rapport que j'ai lu il y a maintenant 4 ans, sur à poste égalitaire au niveau des cadres, la différence entre les hommes et les femmes au Crédit Coopératif, c'était 800 euros. Mmh. 800 euros. Je veux dire, on parle pas de 50 balles hein, par mois, hein, sur un salaire. Hein. Oui, à poste équivalent. Et quand on arrivait à des postes de catégorie C, c'était 100 euros, la différence.
Et je suis témoin que Mathieu a posé la question dans le cadre de l'AG et qu'on lui a répondu quasiment « Merci d'avoir posé cette question, on passe à la suivante ».
Et ils ont amené la seule réponse qu'ils ont réussi à donner, alors ça a fait rire bien sûr tout le monde dans l'histoire, parce qu'ils n'étaient pas là pour se poser ces questions-là, mais même s'ils produisent, ça leur coûte du pognon, ces indicateurs-là, mais c'était de dire que c'était lié en fait à un phénomène historique qui allait se résorber avec le temps. Sauf qu'ils indiquaient quand même des indicateurs sur 5 ans et que rien n'avait bougé.
Moi, j'ai une question. Il y avait une question, une autre.
Ouais. Là, je vais vous choquer, là. Je vais vous choquer, mais c'est incroyable parce qu'on en parlait l'autre jour avec ma fille qui a 13 ans, voilà, ou 12, je ne me rappelle plus. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, je crois qu'elle est à 13. Donc, on parlait de ça, de la parité et l'égalité. C'est elle qui m'a dit ça, pour vous dire. Hein. Il prépare un concours sur la démocratie. Je peux vous dire que ça cogite là-dedans. Donc, il m'a dit, la parité, il a trouvé ça dénigrant. Il dit, mais la parité n'a rien à voir avec l'égalité. Hein, ça, là, c'est moi qui parle. Et je vous dirai une chose, se battre pour que des femmes ils gagnent la même chose que les hommes, oui, hein, parce qu'en Espagne, ils en sont encore là-dedans. Non hein, parce que là, oui, qu'ils aient les mêmes conditions, qu'ils aient les mêmes... qu'ils aillent pas... c'est pas entre hommes et femmes, c'est entre personnes, tout simplement, entre personnes. Mais en avoir à dire, ah oui, 50%, 50 femmes, 50 hommes. Dans les mairies, 50 hommes et 50 femmes. Excusez-moi, mais quand on a couché, qu'on a donné à l'été, on a le soir, au lieu d'aller à la mairie, peut-être on a envie de rester avec nos enfants aussi. Il faut que ça corresponde à des choix personnels. Voilà, moi je suis une association, j'en suis présidente en plus. J'ai un secrétaire qui est génial. J'ai dit, mais soit je voudrais le faire présidente. J'ai même lancé une campagne là-dessus. Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit une femme ou qu'il soit un homme? Qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit 10 femmes ou qu'on soit 3 hommes? Ça n'a pas d'importance. Masse, on est tous des personnes. Mais je trouve ça dénigrant. Je sais bien que c'est à la mode, la parité, vous dites ça comme ça. Hein. C'est à la mode, mais moi, ça me rend malade. On qualifie les personnes comme personnes, qu'ils soient hommes ou femmes, on s'en fout. Voilà, c'est tout. Bah, c'est ma façon de voir.
Oui, alors vous avez raison sur le principe, sauf que dans la réalité, tant qu'il n'y avait pas d'obligation de parité, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes dans les conseils municipaux, il n'y avait pas de femmes. Et c'est un peu dommage, justement, si on veut qu'il y ait aussi un angle de vue global, d'avoir des décisions qui sont prises que par des hommes. Et à partir du moment où il y a eu ces lois sur la parité, il y a eu plus de femmes. Alors il y a aussi, vous avez raison, toutes les contraintes, justement, les enfants, tout ça, et c'est compliqué, mais justement, ça repose la question du partage des tâches. Voilà. Et il y a aussi la question que les femmes ne s'autorisaient pas non plus. Elles se sentaient... moi, j'ai un exemple. personnel, je travaille dans une mairie et j'ai vu plusieurs changements d'élus. Et j'ai jamais vu un nouvel adjoint venir me voir en me disant « Oh là là, moi je ne vais pas savoir faire ». Et une femme sur deux, en gros, des adjointes, à chaque fois, au début du mandat, elle vient me voir en me disant « Bon, faut que tu m'expliques parce que moi, je vais... » Et donc, il y a tout ce problème de confiance en soi qui empêchait aux femmes de...
Ce qu'on peut constater aussi, c'est que, et ça, c'est documenté, hein, en Allemagne, par exemple, la société laisse peu de place à la femme de sortir de la maison. Quoi, en fait. Il y a eu une telle valorisation des tâches maternelles et ménagères qu'il peut y avoir un poids social qui interdit. Et donc, ces questions-là, elles sont peut-être aussi encore, et même certainement, des espaces de combat, quoi, en fait, pour qu'il y ait une égalité réelle et que tout le monde ait les mêmes chances. Laetitia semble pas d'accord.
En ce qui concerne l'Allemagne, oui, c'est clair. Il y a. On pourrait avoir vécu et avoir. Échanger sur ces thématiques-là avec des gens, parce que c'est une thématique qui m'a intriguée. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait si peu de crèches, ou pourquoi la thématique de la crèche en entreprise était si essentielle. Et c'est là que j'ai compris que si une femme, au bout de quelques mois, après un accouchement, retournait travailler, elle était vue, comme une... abandonneuse d'enfants, comme une mauvaise mère. Et donc ce que tu dis est en effet tout à fait vrai pour les premières années qui suivent un accouchement. Par contre, dans l'entreprise, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, il y a une forte pression au niveau on va dire politique pour qu'il y ait une plus grande parité, mais pas une parité bête et méchante 50-50, une parité pour dire compétences équivalentes, postes équivalents, etc. Et ça, clairement, c'est une volonté affichée du gouvernement depuis de très nombreuses années. Les métiers en allemand, ils existent au masculin et au féminin depuis de très très nombreuses années. Est-ce que vous savez comment on dit un pompier au féminin en français ? Moi, je sais pas. En Allemagne, ces noms-là, ça fait bien longtemps que ça existe et le langage, en effet, comme tu disais, c'est Emmanuel, c'est ça ? Comme tu disais tout à l'heure. Et je pense un des premiers vecteurs de l'évolution des mentalités. Enfin, Marie, en Allemagne, il y a encore du boulot, mais c'est pas mal, pas mal.
Marie, une réaction ?
Je pense que si c'est intéressant cette question de la parité, c'est bien qu'elle fasse débat, parce que c'est souvent ça qui fait débat quand même sur l'égalité de salaire. Souvent on dit bon bah oui, ça c'est voilà. Par contre la parité, c'est je pense que voilà, la question c'est quand même celle du choix, comme tu disais tout à l'heure, c'est moi j'ai envie de choisir. Et justement, ben l'idée de la parité, c'est de dire mais les femmes n'ont pas vraiment le choix et ne sont pas encouragées à prendre tel poste à responsabilité, etc. Et je pense qu'aussi ça peut la parité, ça peut aider à en effet avoir une égalité réelle, et ça a une influence sur les générations futures, c'est-à-dire que les petites filles, si elles voient que dans tel secteur il y a le même nombre d'hommes et de femmes, elles vont se sentir légitimes à viser ça, quoi. Et je pense que en ça c'est peut-être aussi pour l'avenir, quoi.
J'aimerais poser une question aussi sur est-ce que vous ressentez la question des femmes qui assument, qui sont monoparentales comme ça en fait, et qui assument des responsabilités. Là, c'est vraiment en opposition avec la situation de 1976 comme ça en fait, mais ça devient une question de plus en plus forte maintenant dans la société en général. Mais on a pas, on le voit aussi en campagne. Donc, est-ce que ça vous semble un enjeu de responsabilisation aussi en tant que féministe ?
Parmi nos rêves, ça fait longtemps qu'on voulait, pendant nos soirées, organiser une garderie pour les enfants. Parce qu'on voulait que les couples puissent venir ensemble et que les familles monoparentales puissent venir aussi. Sauf qu'on s'est encore posé la question pour dans 15 jours, là, mais... Ça semble compliqué, il faudrait quelqu'un de qualifié, il y a la responsabilité, il y a tout ça. Et du coup, ça, on n'a pas encore réussi, mais ça fait partie de... On voudrait bien, parce que j'imagine que ces femmes-là, on ne les voit pas forcément. Du coup.
Oui, alors que justement...
Et là, pour le coup, je pense qu'en milieu rural, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a moins de babysitting, moins de...
En fait,
mon travail, moi, il a deux volets, c'est le social et l'agricole. Et donc, du coup, ça va faire plus de 6 ans que je fais ce travail-là. J'ai vu des femmes en parcours, des femmes isolées, femmes avec des enfants, je veux dire, habitant seules, isolées parce que parfois pas le permis. J'ai jamais vu ce cas de figure pour des hommes.
C'est là où je trouve justement qu'on, j'en reviens toujours à l'éducation, c'est qu'on doit sérieusement se poser la question dans notre société de pourquoi est-ce qu'on en est à des situations comme ça. Je te rejoins complètement sur beaucoup de choses. La parité en elle-même, c'est un mot qui me fait plutôt faire la grimace. Ça me fait penser quand j'étais gamin, vous souvenez, on voyait les films américains où il y avait le noir qui avait un bon rôle de président, de maire et tout, parce que c'était le quota, il fallait... Et j'aime pas cette façon de faire. Et j'aimerais énormément qu'on dépasse ce besoin-là, mais malheureusement, je pense qu'actuellement, c'est un besoin comme d'avoir recours à un espèce de chantage avec l'éducation des enfants pour obtenir un comportement adéquat. On s'en veut souvent en tant que parent ou encadrant. Mais on doit passer par là. Et du coup, effectivement, dans l'éducation, pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des familles monoparentales, généralement assurées par des femmes ? C'est qu'on n'a pas dû éduquer les gamins à être responsables et à tenir leur rôle de père jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'il y a des familles monoparentales, enfin des parents divorcés ou séparés ? Avec 50, 100, 200, 300 ou plus de kilomètres d'écart. Et du coup, il y a un des parents, souvent la femme, qui se retrouve avec la garde de l'enfant. Alors, il y a les cas de problèmes, violence conjugale et compagnie, mais quand c'est simplement un abandon de responsabilité, et que c'est souvent considéré comme... c'est accepté, finalement, au final. Donc, je trouve... ça me questionne énormément et je pense que c'est sur l'éducation sociétale qu'il faut vraiment donner d'énergie. Quoi.
Oui, et puis même presque interroger, là quand c'est une séparation, mais quand c'est un cas de divorce par exemple, aussi interroger les représentations sociales dans la tête des juges, comme ça en fait aussi. Hein. Bien écoutez, on arrive à 21h30, c'est l'heure de clôture habituelle. À chaque fois, on se dit que bien, c'est un sujet qu'on n'a pas terminé. Est-ce que vous avez d'autres idées à évoquer avant qu'on achève ?
Juste vous remercier de nous avoir donné la parole. En plus, c'est la première fois qu'on se lançait dans ce genre d'exercice.
Oui, une dernière question.
Du coup, dernière petite chose à dire, en étant dans des réseaux d'entrepreneurs, je constate aussi beaucoup que dans la région et puis dans le milieu rural, il y a de plus en plus de femmes qui se mobilisent et qui ont envie de créer leur activité. Donc je connais plein de domaines et plein de... Donc elles ont envie de se bouger, mais c'est vrai que quand j'entends parler des enfants, il y a... moi, j'ai pas d'enfants, donc je me lance. Et puis, les femmes qui ont leurs enfants qui sont assez grands pour pouvoir se mettre en danger et puis aller, se lancent aussi à ce moment-là. Mmh. Et il n'y a pas beaucoup d'aide pour les femmes qui ont des enfants en bas âge et qui ont besoin d'être soutenues quotidiennement. Mmh. Donc, mais c'est vachement positif parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui mettent leur talent au service de leur activité. Et ça, je trouve ça chouette.
C'est bien. Merci. Terminer sur quelque chose de positif. Patricia ?
Dernière chose, on a des affiches à distribuer, si vous voulez en prendre quelques-unes, et les placarder dans la région.
Je pense qu'il y a effectivement à aller chercher, peut-être aussi dans d'autres pays. On parlait de l'Allemagne tout à l'heure, mais sur la question du rapport homme-femme, les pays nordiques ou scandinaves, sont assez intéressants. Ça me rappelle le mariage entre un Français et puis une Suédoise. Donc on a eu tous les Suédois qui ont débarqué en Bretagne, puisque le mariage s'est passé aussi en Bretagne. Ils ont fait des deux côtés pour bien faire les choses. Et je me souviens de ce... Donc c'était une grosse fête. Hein. Il y avait 150 personnes. Il y avait une cinquantaine de Suédois. Donc des couples avec plein d'enfants, parce que c'était des gens qui avaient une trentaine d'années. Il y avait plein d'enfants de couples suédois qui étaient là. Et le lendemain matin, après une nuit très longue et bien arrosée, les enfants suédois étaient juste gardés par les papas. Alors que les enfants bretons, français, je ne sais plus trop quoi dire, étaient gardés par leur mère. Et c'était vraiment flagrant chez flagrant, quoi. Il n'y avait pas d'un-demi-mesure, quoi. C'était systématique.
Okay. Voilà. Bien. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on n'aboutit jamais à terminer le sujet. Comme ça, en fait, donc ça veut dire que on a plein de choses à dire. Ça veut dire qu'on peut y revenir. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec les blabla, puisque c'est régulier. Et puis, on se retrouve à Monteneuf, si vous le voulez bien, d'ici 3 mois. C'est ça? Donc. Ah oui, mais 15 jours avant, mais pour le blabla. Mais j'allais dire, il y a des rendez-vous avant, voilà, comme ça, en fait. Bon. Mais si vous en êtes d'accord, on espère que vous soyez aussi nombreux la prochaine fois pour ce rendez-vous-là. Mais d'ici 15 jours, c'est... rappelle-nous.
Excusez-moi pour la confusion, mais c'est parce qu'on a demandé à Henri-Georges d'animer la partie de débat de notre prochaine soirée. Donc c'est pour ça que je me permettais de penser d'abord à nous.
Non, j'oublie pas parce que je me dis que je prends des risques. Voilà. Bon, en tout cas, merci de votre présence et puis de votre attention, de votre curiosité. Et puis, on espère que vous avez passé un bon moment comme nous. À bientôt.
Les blabla de l'ESS, c'est sérieux?
Sans se prendre au sérieux.